Éternel, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu, nous sommes réunis ce matin, convoqués par toi pour ce culte, afin de t'exalter, afin de bénir ton nom, aujourd'hui, à toujours et à perpétuité. Oui, Éternel, notre Dieu, nous voulons louer ton nom, parce que tu es le Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, qui est lent à la colère et rempli de bienveillance à l'égard des siens. Et l'on peut même dire à l'égard de l'humanité, mais surtout à l'égard des tiens. Éternel, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, car tu es si bienveillant pour nous. Tu nous donnes infiniment au-delà de ce que nos pensées ou de ce que nos paroles pourraient te demander. Tu pourvois, Seigneur, avec largesse à tant de nos besoins. Et lorsque tu nous fais passer par des temps de disette, des temps de difficulté, des temps d'épreuve, Éternel, dans ta bienveillance et dans ta bonté, comme un père proche de son enfant, triste, accablé, tu es là et tu soutiens nos pas. Éternel, notre Dieu, ta bienveillance et ta bonté se révèlent dans toute ta création, et nous te bénissons, Seigneur, de ce que nous voyons, après cet hiver passé, la nature commencer petit à petit à se réveiller. Et nous voyons ainsi la perfection de tes œuvres. Il est toutefois vrai, Seigneur, que nous vivons dans un monde qui est éloigné de toi. Beaucoup de nos contemporains, Seigneur, te rejettent, bafouent ton nom, ta gloire, ne reconnaissent pas ta divinité, ta domination, ta seigneurie. Mais Seigneur, nous savons que, quoi qu'il en soit, tu règnes dans les cieux, et que tu accomplis tout selon ton saint conseil, que rien ne t'échappe. Il n'y a pas un mouvement, Seigneur, d'un être, pas un cheveu de nos têtes, pas un oiseau qui tombe, Éternel, sans que tu ne l'aies voulu et décidé. Et Seigneur, ta parole nous dit que, même si les rois les plus puissants de la terre se liguent, Éternel, du haut du ciel, tu te ris d'eux. Seigneur, car ils ne feront jamais que ce que tu as décidé, et tu as mis des limites à leur pouvoir. C'est en toi, Éternel, donc, que nous nous confions. Tu es le seul vrai souverain. Et nous voulons te dire notre amour. Et nous voulons te dire combien vraiment nous nous attendons à toi. C'est vrai que nous t'offensons si souvent de différentes façons, par nos paroles, par nos pensées, par nos actes. Mais tu connais nos cœurs et notre désir, Éternel, de te plaire. Et dans ce sens, nous crions à toi ce matin encore, te demandant pardon, étant confiant de ton pardon en Jésus-Christ et de ton œuvre en nous. Car Éternel, tu as commencé en tes enfants, ceux qui se confient en Jésus-Christ pour leur salut, une bonne œuvre que tu amèneras à la perfection. Eh bien, nous te louons et te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Et nous te demandons à ce propos que le culte de ce matin travaille à notre sanctification. Nous te prions aussi afin que, pour ceux qui sont parmi nous et qui ne t'appartiennent pas, tu parles à leur cœur. Que, Seigneur, ta parole se révèle à eux avec puissance. Éternel, qu'ils puissent contempler ta majesté, considérer leurs péchés, se repentir, Éternel, se confier en Jésus-Christ comme leur bon sauveur. Éternel, que cette grâce soit accordée à tous. Nous pensons tout particulièrement aux enfants qui sont parmi nous et qui seront enseignés ce matin à l'école du dimanche. Et nous te demandons, Père, que ta parole qui leur est enseignée en famille, ici, Seigneur, lors de l'école du dimanche, au catéchisme, pour ceux qui l'ont, Seigneur, que cette parole puisse vraiment œuvrer, transformer leur vie, et que parmi ces enfants, il y en ait un grand nombre qui se tournent vers toi, qui soient des hommes et des femmes de Dieu, selon ton cœur. Nous te prions, Éternel, pour ceux qui se sont éloignés, te demandant, Père, que tu les rappelles. Que, Seigneur, s'ils sont tombés, ils se relèvent et repartent en nouveauté de vie avec toi. Nous te prions pour ce monde, Seigneur, bouleversé. Nous pensons, Seigneur, aux pays arabes, aux pays du Maghreb. Nous pensons au Japon, nous pensons aux pays africains, à la Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, tant d'autres pays d'Asie aussi, et nos pays européens, Seigneur, occidentaux, qui se détournent de toi, nous te prions afin que tu fasses grâce, afin que tu entendes les cris de ceux qui s'attendent à toi, afin que parmi les perdus, tu arraches un grand nombre, Seigneur, aux griffes de l'ennemi et que tu les transportes dans le royaume de ton Fils bien-aimé. Nous te prions afin que ton Église t'honore ce matin, Seigneur, dans le culte qu'elle te rend, que véritablement ton nom, Seigneur, soit glorifié. Telle est notre prière, dans le beau et saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons lire trois textes qui serviront d'appui à la prédication de ce matin. Il s'agit tout d'abord de lire en Exode 20, le verset 17. Et nous lirons ensuite deux textes dans le Nouveau Testament. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. Je vous invite maintenant à lire dans la première épître de Jean, au chapitre 2, les versets 15 à 17. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà, je vous invite maintenant à la lecture d'un dernier texte. Nous allons lire dans l'épître de Jacques, au chapitre 1, les versets 14 et 15. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Voilà donc les textes de la prédication de ce matin dans la parole de Dieu. Que notre Dieu bénisse sa parole qui sera annoncée, elle sera annoncée aussi aux enfants. Chers frères et sœurs, vous n'êtes pas sans savoir que nous vivons dans une société qui ne se refuse, matériellement parlant, absolument rien, et qui pourtant ne cesse de se plaindre. Et c'est ainsi que les sociologues certainement pourraient dire que notre société est devenue une des plus mécontentes de l'histoire. Et la raison de cette insatisfaction est la suivante. Peut-être y a-t-il encore d'autres éléments que nous pourrions rajouter, mais c'est la raison principale, c'est que plus les hommes possèdent de biens matériels, plus ils possèdent de facilité, de confort, de loisirs, plus ils sont mécontents. En outre, et malheureusement, ils ne souffrent pas en silence, mais ils ont pris l'habitude, nous avons pris l'habitude de nous plaindre haut et fort. Et c'est d'ailleurs de plus en plus une marque de notre société et des familles de notre société, c'est que les parents se plaignent haut et fort et les enfants apprennent à se plaindre eux aussi haut et fort de leur mécontentement. Mais le plus terrible, c'est que cet état d'esprit se propage aussi dans les églises. C'est ainsi que la jalousie, c'est ainsi que les récriminations, c'est ainsi que les convoitises envahissent les assemblées. Et elles créent ainsi un climat lourd, malsain, qui empêche quoi ? La joie, la reconnaissance chrétienne de se manifester en réponse aux multiples bienfaits de la providence de Dieu. Pourtant, la volonté de Dieu à l'égard des siens, à notre égard, eh bien, c'est que nous soyons reconnaissants de l'état dans lequel nous nous trouvons. Ne tournant pas des regards inquiets, ne jalousant pas notre frère ou notre sœur ou quiconque, n'étant pas revendicateur, mais apprenant au contraire à rendre grâce en toute chose. Voilà la volonté de Dieu à l'égard des siens. Face à ce mal qui gangrène donc notre société et qui gangrène non seulement notre société, mais aussi l'Église de Jésus-Christ, eh bien, il nous a semblé opportun d'examiner ce que la parole de Dieu nous apprend sur le contentement. Et c'est ainsi donc que nous commençons aujourd'hui une série de prédications, de 9 prédications pour être plus exact, qui traitera de la nécessité de cette vertu dans la vie chrétienne, mais qui traitera aussi des obstacles de cette vertu dans la vie chrétienne et finalement des outils que Dieu nous donne, que Dieu donne à ses enfants, pour leur apprendre à vivre dans le contentement. Et que Dieu, bien que Dieu nous accorde justement à ce qu'à l'issue de cette série, eh bien, nous sachions être reconnaissants, contents, joyeux de la situation qui est la nôtre. Sans toutefois fermer les yeux, bien entendu, sur les épreuves et les difficultés, mais reconnaissant de ce que le Dieu des cieux, souverain, tout-puissant, bienveillant, providentiel, prend soin de nous. Au cours de la prédication de ce matin, qui commence donc cette série, eh bien, nous allons découvrir que loin d'être une alternative, je pense que vous l'avez compris, eh bien, le contentement est une exigence divine. En effet, nous avons lu tout à l'heure au verset 17 du chapitre 20 que le dixième commandement du Décalogue nous ordonne de ne pas convoiter ce que possède, ce que fait ou ce qu'est notre prochain, mais de vivre plutôt dans un état d'esprit de reconnaissance pour ce que nous avons, pour ce que nous faisons, pour ce que nous sommes, par la grâce de Dieu. Et ce commandement, ce dixième commandement, est véritablement important. Pourquoi ? Parce que bien qu'il soit le dernier, il arrive en queue de peloton, eh bien, on peut dire et l'on doit dire que bien qu'étant le dixième, il se situe toutefois en amont des autres commandements, et principalement des commandements qui nous parlent de nos devoirs à l'égard de notre prochain. Parce que celui qui transgresse ce commandement intérieurement, parce qu'il est question de convoitise, c'est-à-dire de ce qui se passe dans le cœur, celui qui donc convoite ce qui appartient à son prochain, ce qu'est son prochain, arrivera tôt ou tard à transgresser les autres commandements. Il arrivera tôt ou tard à voler peut-être, à porter un faux témoignage pour nuire à la réputation de son prochain, à commettre peut-être un meurtre, à devenir adultère, à manquer d'honneur à l'égard des autorités. D'où l'importance de ce dixième commandement qui nous parle de la convoitise qui est à l'intérieur des cœurs, que l'on ne voit pas nécessairement. Quoique la convoitise ressort de façon évidente dans le comportement et dans les paroles des uns et des autres. Donc, ce dixième commandement lutte contre ce péché intérieur de la convoitise et de l'envie. Alors, nous allons voir deux choses ce matin dans le cadre de cette première prédication à propos de ce commandement. Nous allons tout d'abord considérer ce qu'il condamne, et nous allons ensuite voir, dans un deuxième temps, ce qu'il exige. Et le titre de ma prédication est celui-ci, « Le commandement du contentement ». Le commandement du contentement. Et j'aurai donc deux points. C'est le premier point, la convoitise condamnée, et le second point, le contentement exigé. Je commence donc par ce premier point, la convoitise condamnée. Alors, pour commencer ce premier point, il est intéressant de considérer l'enseignement du petit catéchisme de Westminster. C'est un catéchisme donc qui suit la confession de foi de Westminster et qui a été écrit, conçu pour enseigner les enfants. Alors, on reste tous avec des esprits d'enfants et nous avons donc tous besoin de l'enseignement certainement de ce catéchisme. Et dans ce catéchisme, à propos de ce dixième commandement, il y a une question qui est posée. Il y a même deux questions, on va voir la première maintenant, et il y a évidemment deux réponses. Alors la première question est la suivante. Qu'interdit le dixième commandement ? Et la réponse est claire et pertinente. Elle est la suivante. Le dixième commandement nous interdit d'être mécontents de notre condition personnelle. Il nous défend aussi d'envier ce que notre prochain a comme bien, ou d'éprouver quelque amertume envers lui. De même, nous ne devons avoir ni impulsion, ni sentiment déplacé envers rien qui appartienne à notre prochain. Voilà donc la première réponse à cette question, donc sur l'enseignement de ce dixième commandement. Voilà donc cette interdiction divine de la frustration et de la convoitise. Et je vous propose maintenant, après avoir lu ce que nous dit ce dixième commandement, selon l'interprétation, la première interprétation de ce dixième commandement qui en lui-même est si clair, eh bien, selon ce principe qui consiste à connaître son ennemi et à se connaître soi-même afin de devenir victorieux, c'est Sun Tzu, vous savez, le grand stratège chinois qui disait cela, eh bien, selon ce principe, de découvrir le mécanisme de la convoitise, puisque la convoitise est ici dénoncée et nous devons y renoncer. Découvrons le mécanisme de la convoitise ainsi que les trois grands domaines dans lesquels la convoitise nous assaille régulièrement. Alors, tout d'abord, comment fonctionne la convoitise? Eh bien, la convoitise, d'après la parole de Dieu, fonctionne ainsi. Et c'est Jacques qui nous l'explique d'après les versets 14 et 15 que nous avons lus tout à l'heure au premier chapitre. Écoutez bien. Chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Voilà ce que nous apprend Jacques sur ce mécanisme de la convoitise. D'après lui, il y a quatre étapes distinctes et progressives. On pourrait même dire trois pour simplifier, mais permettez-moi d'en souligner quatre. Quatre étapes distinctes et progressives qui sont un peu comme une naissance, si on pense à la naissance d'une personne. Et ces quatre étapes vont conduire de la tentation à la mort en passant par le mécontentement et le péché. Considérons ces quatre étapes. La première étape, verset 14, c'est la tentation. Et Jacques fait ici référence à quelque chose ou à quelqu'un qui attire subitement notre attention, mais qui ne fait pas qu'attirer notre attention, qui éveille en nous un fort désir de posséder cette chose ou cette personne, afin d'en jouir. Mais il s'agit de quelque chose ou il s'agit de quelqu'un qui ne nous appartient pas et auquel nous n'avons pas à aspirer légitimement le bien peut-être matériel de mon prochain, peut-être le mari ou l'épouse de mon prochain, peut-être sa réputation, peut-être sa richesse, peut-être sa réussite, peut-être ses dons. Et on pourrait encore réfléchir et décliner tout ce que je viens de vous dire de différentes façons. Donc, quelque chose, quelqu'un attire mon attention et je ne peux plus vivre sans cette chose et sans cette personne. Si je n'interviens pas immédiatement lors de la tentation, eh bien, je vais avoir ce fort sentiment d'insatisfaction, je vais avoir ce fort sentiment de jalousie, je vais avoir dès lors cette impression, comme je vous le disais il y a quelques instants, que sans cela, ou sans celle-ci, ou sans celui-là, je ne peux pas vivre. La semence a été jetée par la tentation. La convoitise est en train de s'installer. Et nous en arrivons à la deuxième étape. Deuxième étape qui est la justification. La deuxième et la troisième étape pourraient être une seule et même étape, mais comme je vous le disais précédemment, au lieu de trois, j'en ai déterminé quatre. La justification. Cette étape consiste à justifier à notre intelligence la nécessité que nous avons d'obtenir ce que nous convoitons. La nécessité d'obtenir ce que nous convoitons, pourquoi ? Pour satisfaire cette frustration. Pour satisfaire cette envie. Pour répondre à ce mécontentement. Permettez-moi de dire qu'il s'agit de justifier la nécessité d'obtenir ce que l'on convoite, et il ne s'agit pas toujours d'obtenir quelque chose ou quelqu'un, mais il s'agit aussi, parfois, de nuire à ce que quelqu'un a. Parce que si quelqu'un a une bonne réputation, si quelqu'un est reconnu pour ses mérites ou pour ses dons et que nous sommes frustrés à cause de cela, eh bien nous allons essayer de nuire peut-être à cette personne, être tentés de nuire à cette personne. Donc il s'agit non seulement de posséder, mais parfois aussi, et ce dixième commandement porte là-dessus, de nuire d'une façon ou d'une autre parce que l'on envie ce que l'autre a et que nous n'avons pas. En justifiant à notre intelligence son envie, cette envie, si forte qu'est la nôtre, eh bien, on entre déjà dans le domaine de la conception. La semence, c'était la tentation, verset 14, nous sommes dans la conception, au verset 15. Et la conception continue avec la troisième étape, qui est la planification. J'ai été tenté, je désire, je justifie à ma pensée ce que je veux, et maintenant je planifie. Comment vais-je pouvoir obtenir ce que je désire ? On élabore les plans qui vont nous permettre de l'obtenir. On est dans la phase finale de la conception. Cette étape importante implique notre volonté. Ce que nous avons fortement désiré, ce que nous avons fortement justifié, ou ce que nous avons justifié, eh bien nous déterminons maintenant que nous voulons le posséder et que nous allons tout faire pour tenter de l'avoir ou de le faire. Et enfin, eh bien, vient la dernière étape, la quatrième étape qui est le péché. Nous sommes dans l'enfantement de la convoitise. Ce qui nous a amorcé, ce que nous avons fortement désiré, ce que nous nous sommes justifiés intérieurement, ce que nous avons planifié d'obtenir, eh bien, nous l'accomplissons. Notre insatisfaction est à ce moment-là pleinement assouvie, semble-t-il, mais elle a été assouvie au prix de la transgression de la loi de Dieu. Et ce que j'aimerais préciser, j'en redirai un mot tout à l'heure, c'est que cet assouvissement de ce que nous avons désiré fortement, justifié et planifié auquel nous n'avions pas droit, commence déjà dans le domaine de la pensée, puisque c'est de cela dont il s'agit dans le chapitre 10. Il ne s'agit pas nécessairement d'abord d'avoir entrepris pratiquement la chose, mais déjà de l'avoir conçue, justifiée, planifiée dans notre tête, et même peut-être accomplie déjà dans notre tête. J'en redirai, je vous le répète, deux mots tout à l'heure. Voilà donc, chers amis, ce processus en quatre étapes de la convoitise. Tentation, justification, planification, péché, pour arriver à quoi ? Pour arriver à la mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. La convoitise, chers frères et sœurs, est une insatisfaction profonde de l'état dans lequel on se trouve. Pourquoi ? Parce que l'on ne possède pas. Et si l'on n'intervient pas radicalement, eh bien cette convoitise va nous conduire au péché et à la mort. Il va bien entendu sans dire que ce processus peut être arrêté à n'importe quel moment, parce qu'il est nécessaire de préciser qu'être tenté ne signifie pas péché. Christ fut tenté comme nous en toutes choses, mais il n'a pas commis de péché. Et donc il est nécessaire d'intervenir le plus tôt possible. Plus tôt on intervient, plus vite on chasse cette tentation et l'insatisfaction qui va avec. Et plus on a de chances donc d'éviter de pécher. C'est exactement ce que nous commande ce dixième commandement, d'agir et d'agir le plus tôt possible, c'est-à-dire en amont, dès que la tentation arrive. À l'inverse, plus nous tardons à résister, eh bien plus nous risquons de perdre le combat et de tomber. Quel est le meilleur moyen de combattre et de résister à la tentation ? Eh bien, permettez-moi de vous donner l'exemple pour répondre à cette question et à titre en même temps d'illustration de Joseph avec la femme de Potiphar. Nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Que fit Joseph lorsque, après des semaines et des semaines durant lesquelles la femme de Potiphar venait vers Joseph, l'invitait à coucher avec lui, au moment où elle mit la main sur Joseph pour le forcer, eh bien, Joseph lui laissa son vêtement et s'enfuit loin de la tentation. C'est exactement ce que nous avons à faire. Il ne s'agit surtout pas de caresser la tentation, de jouer avec elle, ce serait mettre le doigt dans l'engrenage. Mais il s'agit de fuir. De fuir d'abord la tentation. Comment lui résister ? En la fuyant. Et si l'on ne peut la fuir, eh bien, l'une des solutions, et si ce n'est même la principale des solutions, eh bien, c'est prier. Je vous le disais tout à l'heure, la tentation n'est pas le péché. Et c'est à ce moment-là que l'on doit crier à Dieu. Ce n'est pas à ce moment-là que l'on doit s'accuser intérieurement en se disant « je suis tenté » et ne pas oser lever les yeux au ciel. Bien au contraire, c'est le moment où il faut crier à Dieu comme David qui supplie l'Éternel en lui disant « Éternel, veille sur ma bouche, garde les portes de mes lèvres, n'incline pas mon cœur au mal, à la pratique de méchantes actions. » La fuite, la résistance, la prière. Voilà donc le mécanisme de la convoitise qui est dénoncé dans ce dixième commandement. Voyons maintenant ces trois domaines dans lesquels nous sommes tentés, toujours dans le but de mieux connaître notre ennemi afin de mieux lui résister. Jean, dans sa première épître, chapitre 2, versets 15 à 17, nous l'avons lu tout à l'heure, je le relis, a écrit ceci. « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Alors l'apôtre nous apprend ici que le monde, c'est-à-dire le monde qui vit sans Dieu, tous ceux qui rejettent Dieu, ne veulent pas de Dieu, qui se liguent contre Dieu et vivent selon des principes opposés à Dieu, et son chef, Satan, eh bien, se servent de trois moyens pour prendre au piège les hommes. Il s'agit de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie. Et mes amis, ce mode de fonctionnement et ces trois moyens, nous les découvrons déjà en Genèse 3. C'est par ces moyens qu'Ève fut tentée par le diable dans le jardin d'Éden. Il commença par susciter chez elle l'insatisfaction en lui disant qu'elle pouvait être bien plus que ce qu'elle était. En accusant même Dieu, en lui disant « Mais Dieu sait que si vous mangez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous deviendrez comme lui. Être Dieu à la place de Dieu. Dieu est injuste, il ne veut surtout pas qu'on arrive au même niveau que lui. » Insatisfaction de l'état dans lequel se trouvait cette femme, et pour Adam aussi, ensuite et par voie de conséquence. Et ce qu'il fallait donc faire pour devenir Dieu à la place de Dieu, eh bien, c'était manger de ce fruit qui rouvrirait leur intelligence. Et c'est ainsi donc, comme il est écrit en Genèse 3, que lorsque la femme vit que l'arbre était bon à manger, convoitise de la chair, agréable à la vue, c'est-à-dire à posséder, convoitise des yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, orgueil de la vie, devenir Dieu à la place de Dieu, elle en prit. Elle prit de ce fruit, elle en mangea, et elle tomba. Elle entraîna avec elle son mari, qui, ne l'oublions pas, était le chef. C'est pour ça qu'on parle du péché d'Adam, parce qu'il aurait dû intervenir bien avant. Continuons. Non seulement Ève fut tentée de cette façon, mais le Christ aussi. C'est par ces mêmes tentations que le diable a tenté Jésus-Christ dans le désert, pensant pouvoir le faire tomber de la même façon qu'Adam. Lui qui était le dernier Adam, le diable se disait qu'il allait avoir la victoire sur lui en utilisant le même processus, la même ruse. Et de la même façon que pour Ève, il suscita ou il tenta de susciter chez elle une insatisfaction. Tu es Dieu, vrai Dieu, vrai homme, surtout vrai Dieu, et tu te retrouves là dans le désert après 40 jours. Tu as faim. Tu dois passer par la croix, mais il y a d'autres solutions. Si tu as faim, mais transforme ces pierres en pain, convoitise de la chair. Pourquoi est-ce que tu ne te jetterais pas du haut du temple? Jette-toi. Et il est écrit que des anges viendront et te déposeront au sol et éviteront que tu t'écrases. Et là, tout le monde te reconnaîtra dans le temple comme étant le Messie. Orgueil de la vie, devenir le Messie, le roi d'Israël, sans passer par la croix. Et enfin, la convoitise des yeux, lorsqu'il lui montre tous ces royaumes de la terre et qu'il lui dit « Mais voilà, tout cela sera à toi, sera ta possession. Il y a juste une condition, ça serait bien que tu m'adores. » Donc nous le voyons, convoitise de la chair, orgueil de la vie et convoitise des yeux. Mais Christ, fort heureusement, pour notre justification, résista à ces tentations. Il a parfaitement obéi à toute la parole de Dieu. Eh bien, comme je vous le disais, chers frères et sœurs, nous venons de le voir en Genèse 3, nous le découvrons en Matthieu 4, à l'instar d'Ève, à l'instar du Christ, le diable continue encore aujourd'hui de susciter chez nous insatisfaction, mécontentement, au moyen de ses convoitises, des yeux, de la chair, au moyen de l'orgueil de la vie. Et il veut donc nous faire tomber ainsi. Nous faire tomber peut-être par le meurtre, par le vol, par l'adultère, par le faux témoignage, par le déshonneur des autorités qu'il a mis sur nous. Pour bien comprendre ces trois tentations, sans vouloir les considérer de façon exhaustive, permettez-moi de les voir l'une après l'autre avec vous, de les considérer. La convoitise de la chair, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la convoitise des sens. C'est-à-dire de la façon de jouir ou du désir de jouir de la mauvaise façon de la sexualité, de jouir de la mauvaise façon des plaisirs de la table et de jouir de la mauvaise façon du repos. Toutes ces choses peuvent être utilisées de façon tout à fait légitime. Il y a une sexualité légitime. Il est légitime de manger un bon repas et de boire un bon vin. Il est tout à fait légitime de se reposer. Mais l'on peut utiliser la sexualité, les plaisirs de la table ou le repos de façon illégitime. Permettez-moi, à titre d'illustration, et pour reprendre le roi David, de vous rappeler cette convoitise de la chair. De nuit, alors qu'il aurait dû être avec l'armée d'Israël au combat, il sort de sa chambre, il est sur la terrasse de son palais, et là que voit-il ? Il voit Bathsheba, la femme d'un de ses meilleurs officiers, se baigner. Convoitise de la chair. Cette femme est belle, il est là dans l'oisiveté, alors qu'il devrait travailler, alors qu'il devrait être au combat. Que se passe-t-il ? Il désire cette femme. Plus rien n'a d'importance pour lui. Surtout pas son armée, surtout pas Israël. Il ne peut vivre sans cette femme. Il la fait appeler, il couche avec elle, il commet l'adultère, et cet adultère va le conduire quelques semaines plus tard au meurtre. La convoitise des yeux. Il s'agit de ce désir inextinguible de posséder, posséder à tout prix quelque chose, ce qui plaît. À titre d'illustration, toujours, permettez-moi de prendre l'exemple d'Acan. Cet homme d'Israël, Israël a conquis Jéricho, ou Dieu a détruit Jéricho devant Israël. La bataille suivante, ou la prise suivante, se devrait être Haï, cette petite ville, ce petit royaume. Eh bien, malheureusement, cette ville d'Haï n'est pas prise, bien au contraire, l'armée d'Israël est défaite. Que s'est-il passé ? Il y a un péché en Israël, il y a un interdit. Et cet interdit, c'est Acan, qui a mis les mains sur un trésor, sur des biens, alors qu'il y avait un interdit. Enfin, qu'il y avait une interdiction de prendre quoi que ce soit dans cette ville d'Haï. Et comment se justifie Acan une fois qu'il est découvert ? Il dit ceci, « J'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar, 200 cycles d'argent, et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités, et je les ai pris. » C'est ce qu'il dit avant de mourir, lui et les siens, puisqu'ils seront lapidés pour ôter l'interdit d'Israël. Enfin, l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est tout simplement l'idée ou la pensée ou la tentation de surpasser les autres, de réussir, de briller parmi ses contemporains, d'être le premier, d'être le meilleur, d'imposer son autorité. Encore une illustration de la parole de Dieu, le roi Saül. Il ne supporte pas que David, vainqueur de Goliath, reçoive plus de louanges que lui. Et en particulier, après qu'il entende ou qu'il ait entendu, les femmes s'écrier « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000 ». À partir de ce moment-là, il est saisi d'une grande colère et d'une réelle haine à l'égard de David, qui, bien qu'il joue de la harpe pour apaiser Saül et le démon malheureusement qui est en lui ou qui s'est saisi de lui, eh bien à ce moment-là, donc Saül regarde d'un mauvais œil David et plusieurs fois tente de mettre à mort David qu'il jalouse. À ce propos, permettez-moi de vous dire, chers frères et sœurs, que la jalousie est une réalité terrible. La jalousie peut dévorer intérieurement. La jalousie fausse les relations avec autrui. La jalousie fausse les relations avec les frères et sœurs. La jalousie cherche à amoindrir les réussites ou les dons du prochain. La jalousie ne supporte pas le bonheur de l'autre. Ne supporte pas peut-être la richesse de l'autre, les possessions de l'autre, sa réputation. Ne supporte pas que l'autre ait un époux ou une épouse ou des enfants ou que sais-je encore. Telle voiture, telle maison. Le plus terrible pour le jaloux, c'est qu'il n'est jamais tranquille. Et il n'est surtout jamais confiant lorsqu'il est dans la présence de la personne jalousée. La jalousie rend prisonnière. La jalousie est un feu qui consume lentement, mais qui, parce qu'il consume, détruit. Et nous le voyons, en l'occurrence, chez le roi Saül. Voilà donc, chers frères et sœurs, les trois tentations que l'ennemi utilise, toujours aujourd'hui, afin de créer en nous un état d'insatisfaction, de mécontentement, de jalousie, d'envie. Pourquoi ? Pour nous faire tomber, à l'instar d'Ève ou d'Adam et Ève. Permettez-moi, et je vous disais tout à l'heure que je reviendrai là-dessus, afin d'être vraiment clair, de préciser que ce 10e commandement ne condamne pas simplement le passage à l'acte pratique, matériel, mais dénonce premièrement la convoitise en tant que telle, c'est-à-dire déjà dans nos pensées. Voilà ce que dénonce ce 10e commandement. Et c'est exactement ce que Jésus rappelle dans le Sermon sur la montagne, au chapitre 5 de Matthieu. Lorsqu'il approfondit la loi mosaïque, lorsqu'il montre, à contrario des pharisiens, ce que signifie réellement la loi de Moïse, comment on doit la comprendre afin de bien la mettre en pratique. Et c'est ainsi, pour ne prendre que quelques extraits de Matthieu 5, qu'il enseigne ceci à ceux qui l'écoutent, à ses auditeurs. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère « Raca » sera justifiable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. On était dans un monde policé en Israël, mais l'on pouvait haïr son frère, son voisin. Mais comme on était dans un monde policé, comme on était dans un pays de droit, il y avait une loi et qui était appliquée, eh bien, on se satisfaisait peut-être de ses paroles, mais de ses paroles qui démontraient au fond de son cœur la haine que l'on avait, au point même de désirer mettre à mort ou que cette personne disparaisse. Le péché était déjà commis intérieurement. Un peu plus loin, Christ enseigne ceci. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Voilà ce qu'auraient dû faire les Israélites qui convoitaient la femme ou le mari de leur prochain. L'intervention, le péché était tel dans leur pensée qu'ils auraient dû aller, enfin, ils ne conseillent pas de le faire, mais c'était pour montrer ce que devrait être la réaction. Aller jusqu'à s'arracher son œil tellement le péché est grave. Donc, la convoitise, l'adultère commis dans l'esprit, dans le cœur, dans la tête, est déjà en soi un péché. Nous avons considéré, chers frères et sœurs, le mécanisme de la convoitise. Nous venons de voir les trois grands domaines dans lesquels elle nous assaille pour nous faire tomber. Disons ceci pour terminer ce premier point. La tentation est inévitable. Nous avons affaire à trois ennemis. Les trois ennemis sont le diable, le monde et notre propre chair, c'est-à-dire notre propre nature pécheresse. Et ces trois ennemis sont là, et ils sont perpétuellement à l'assaut, de différentes façons, en particulier dans un monde perverti et corrompu. Donc, la tentation est inévitable. Les plus grands hommes ont été confrontés à la tentation. David est tombé. David s'est relevé par la grâce de Dieu. La Bible nous apprend toutefois ceci, c'est qu'aucune tentation n'est insurmontable. Paul affirme en effet, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir pour que vous puissiez la supporter. » J'ai déjà entendu des frères et des sœurs dire « Mais que c'était tellement fort !» Non, aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu est là pour nous aider, chers frères et sœurs. Nous devons combattre avec lui. Rappelez-vous, 1 Corinthiens chapitre 3, nous sommes ouvriers avec Dieu, ce qui signifie que nous sommes appelés à son service et qu'il travaille avec nous parce que la tâche est difficile. Dieu donnera aussi le moyen d'en sortir. Donc se battre, comment? En fuyant, en résistant, en priant, comme je vous le disais tout à l'heure. Martin Luther disait ceci, on ne peut empêcher un oiseau de se poser sur nos têtes, mais on peut l'empêcher d'y faire un nid, d'où notre responsabilité. Souvenons-nous toutefois, comme nous l'avons déjà dit dans l'Épître aux Galates, que Dieu crée en nous le vouloir et le faire. D'accord, il est là, il nous épaule, et si nous résistons, il nous aide à résister, il nous donne les forces par le Saint-Esprit qui agit en nous journellement. Donc, trouvons en lui le secours pour résister à la tentation et à la convoitise. Souvenons-nous de ceci, pour terminer ce point. La tentation est une agression externe du monde, du diable, de notre chair, externe, de courte durée. La convoitise, c'est cette capitulation interne à cette tentation. Cette justification, cette planification, vous savez, la conception. Celui qui est tenté est assailli par le mal, mais il peut résister. Celui qui convoite, il a déjà baissé les bras. Et sa chute est presque irrémédiable. Alors ne nous laissons pas terrasser par la tentation. Résistons à celle-ci, à l'insatisfaction, à l'envie, avec l'aide du Seigneur. Et maintenant, nous allons voir justement comment faire. Et c'est le deuxième point, c'est le contentement exigé. C'est un point qui sera plus court, mais ô combien important. Je vous disais tout à l'heure, en introduction au premier point, que le petit catéchisme de Westminster pose deux questions. Donc on a vu la première, on a vu la première réponse, on va voir maintenant la deuxième question et la deuxième réponse. Qu'exige donc le dixième commandement? Et la réponse est la suivante. Le dixième commandement exige que nous soyons pleinement satisfaits de notre propre condition. Pleinement satisfaits de notre propre condition et que nous ayons d'honnêtes et loyales dispositions d'esprit à l'égard de notre prochain et de tout ce qui lui appartient. En 1 Timothée, chapitre 6, versets 6 et 8, nous découvrons justement le secret de ce contentement. Nous devons être pleinement satisfaits de notre propre condition. Comment ? Que nous dit l'Écriture ? Écoutez ce que dit Paul. « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce qu'on a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde, comme aussi nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Qu'est-ce que nous apprenons ou qu'apprenons-nous dans ces versets ? Tout d'abord, écoutez bien, c'est réellement important, que le contentement commence par un réel attachement à la personne du Seigneur. C'est une grande source de gain que la piété, écrit ainsi l'apôtre Paul. En effet, si la convoitise surgit chez nous par la tentation à cause d'un sentiment de manque, de vide, d'insatisfaction, cette convoitise ne disparaîtra réellement et entièrement que lorsqu'elle sera remplacée par ce qui rassasie l'âme réellement, durablement. Qu'est-ce qui rassasie l'âme durablement et réellement? Eh bien, c'est cette perle de grand prix dont nous parlent les évangiles, qui rassasie et qui comble. Et cette perle de grand prix qui rassasie et qui comble, c'est Jésus-Christ. Et je vous rappelle que l'apôtre Paul souligne moult fois dans l'Épître aux Colossiens que Christ, en Christ, habite toute la plénitude de la divinité. Ce n'est pas une fosse, ce n'est pas une crevasse, mais c'est la plénitude. Nous avons tout en Jésus-Christ. Voilà le contentement, où se trouve le contentement en premier lieu, chers frères et sœurs, en Jésus-Christ. Et dans ce sens, nous qui avons obtenu, si nous sommes enfants de Dieu, si nous nous sommes confiés en Christ, nous nous sommes repentis et confiés en lui pour notre salut. Dans ce sens, nous avons obtenu cette perle de grand prix. Nous sommes unis à Jésus-Christ. Nous sommes en lui et il est en nous. Par son esprit, journellement. Ainsi, vous qui avez obtenu cette perle de grand prix, si vous avez obtenu cette perle de grand prix, comment pourriez-vous, ou comment peut-être pouvez-vous, convoitez encore les petits cailloux de votre prochain, si vous avez la perle de grand prix. Vous qui avez une demeure dans le ciel qui n'est pas construite par la main des hommes, alors comment pouvez-vous peut-être convoiter, permettez-moi l'expression, la bicoque de votre prochain, de votre voisin, de votre frère ou de votre sœur? Vous qui avez un héritage éternel, comme nous dit Pierre dans sa première épître, qui vous est réservé dans les cieux, pour lequel vous êtes gardé par Dieu, comment pouvez-vous regarder ou convoiter l'héritage de l'oncle machin ou peut-être l'argent de votre frère, de votre sœur ou de votre voisin? Premièrement donc, ce contentement au moyen de cette perle de grand prix qu'est Jésus-Christ, en Jésus-Christ, par une relation réelle d'intimité journalière, recevoir de lui, en qui habite toute la plénitude de la divinité, tout ce dont nous avons besoin. Mais ce n'est pas tout. Selon Paul, ce contentement s'apprend ensuite lorsqu'on se souvient que nous n'avons rien emporté dans ce monde et que l'on ne pourra rien emporter de ce monde. Job, dans ce sens, écrit ceci. « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » L'auteur de l'Ecclésiaste écrit ceci, « Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu, ainsi qu'il est venu. » Et le Seigneur Jésus enseigne également cela, cette folie qu'il y a de rechercher en priorité ses richesses temporelles. Il dit, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point. » Et encore, « Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? » Et ne dit-il pas que nous n'avons pas à nous inquiéter de ce que nous mangerons, de quoi nous serons habillés, que les lys des champs sont vêtus par Dieu, que Dieu répond aux besoins du moindre des moineaux en lui donnant la nourriture dont il a besoin? Alors, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Dieu ne prend-il pas soin de ses enfants? Sincèrement, si vous considérez votre vie et ces dernières années, est-ce que Dieu ne vous a pas donné infiniment au-delà de ce que vous auriez demandé ou pensé? Je ne dis pas que Dieu vous a donné tout ce que les médias vous disent que vous avez besoin, ou tous, puisqu'ils sont sans arrêt en train de vous dire que vous n'avez pas le dernier iPad ou iPod ou je ne sais quoi, mais vous êtes le plus malheureux des hommes ou des enfants. Enfin, toujours dans ce passage, Paul nous apprend que si nous avons la vie, si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Paul ne condamne pas la possession de biens. Mais il nous invite à apprécier avec reconnaissance tout ce que Dieu nous donne en suffisance, je viens de le dire il y a quelques instants, pour notre subsistance et notre service. Il pourvoit largement à tous nos besoins. Je rends grâce à Dieu, mes amis. Réellement, je le fais devant vous ce matin parce que c'est la vérité. Dieu, je me rappelle quand on était jeunes mariés, et même déjà quand je travaillais à la Maison de la Bible, les salaires étaient vraiment bas, très bas. Et vous ne pouvez pas vous imaginer comment ils étaient bas. Et je vous assure, j'ai encore regardé dernièrement les fiches de salaire, je me disais, mais et Dieu a pourvu. Quand j'étais missionnaire à la Maison de la Bible, puisqu'on employait ce terme-là, et Laurent sait quelque chose, il y a travaillé aussi, le salaire était vraiment bas, je n'ai jamais eu de problème dentaire, entre autres. Et c'est dès lors qu'on a travaillé les deux, qu'on s'est mariés, qu'on était les deux ensemble, on n'avait pas encore d'enfants, que j'ai eu mes premiers problèmes dentaires. Dieu a pourvu. Et il est arrivé combien de fois que Dieu a donné. J'avais besoin d'un jean, d'un pantalon, d'une chemise. Des fois, c'était vraiment court à la fin du mois. Et Dieu donnait. Je me rappelle d'une fois où j'avais besoin de 20 francs pour descendre à la Maison de la Bible à Genève. Pourquoi faire? Pour faire le plein de ma voiture. Il n'y avait plus d'essence pour pouvoir acheter un sandwich pour manger. Et je devais faire la relève à la Maison de la Bible. J'étais pas encore employé, mais j'étais payé par petits à-coups comme ça. J'ai prié, sincèrement, c'est pas du tout pour me vanter, hein, c'est vraiment la réalité, pour montrer la bonté de Dieu. J'ai prié, j'ai dit à Dieu, Seigneur, il me faut 20 francs, c'est vraiment le minimum. Je sais pas comment tu feras, je te remets ça. Peut-être que tu trouveras un autre moyen, sinon je pars à pied, je me débrouille. Je suis descendu au secrétariat, je vivais à l'IBG à l'époque. La secrétaire m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur de l'enveloppe, il y avait une carte avec 20 francs. Elle avait été envoyée 15 jours avant, en courrier. Il y a eu des problèmes à ce moment-là avec la poste. Et voilà, une réponse parmi tant d'autres. Mais Dieu aurait pu agir différemment. Mais pour vous dire combien Dieu répond largement à tous nos besoins, permettez-moi de vous donner encore ces quelques principes pratiques qui nous permettent non seulement de nous réjouir de l'état dans lequel nous sommes, mais aussi de vivre libre du désir de posséder ce qui appartient à notre prochain. Réalisons tout d'abord que tout ce que nous avons vient du Seigneur. Ça vient de lui. Ce n'est pas gagné à la force de votre poignet. Bien sûr que vous avez travaillé, mais c'est une grâce du Seigneur. Ça vient de lui. Et vous êtes intendant de ce qu'il vous donne. Paul écrit ceci aux Colossiens. C'est de lui, par lui et pour lui que viennent toutes choses. Paul est conscient que spirituellement et matériellement, tout n'est que grâce de la part du Seigneur. Tout vient de lui, il nous donne ce dont nous avons besoin et nous avons à être reconnaissants et à bien gérer ses besoins. Donc lorsque je gère mes biens, lorsque je gère mon argent, ce n'est pas mon argent, ce ne sont pas mes biens, c'est les siens. Et il me donne ce dont j'ai besoin. Que Dieu nous accorde d'être trouvés comme de bons gérants des biens qu'il nous donne. Ni trop dépensiers, ni radins. Nous devons également faire preuve de gratitude. Dieu ne nous doit rien, mes amis. Nous avons parfois cette attitude qui voudrait que finalement, lorsque nous recevons quelque chose, eh bien ce n'est qu'un dû. Non, Dieu ne nous doit rien. Tout ce qu'il nous donne n'est qu'un témoignage de sa bonté, de sa richesse surabondante à notre égard. Ce qu'il nous devait, c'était sa colère. Mais il nous donne bien plus sa grâce en Jésus-Christ et il pourvoit à tant de nos besoins. Paul écrit aux Thessaloniciens, « Soyez toujours joyeux. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rappelez-vous de David, psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et pourtant, David avait été poursuivi par Saül en plein désert. seul, avec quelques mercenaires. La reconnaissance est un des meilleurs remèdes pour lutter contre l'envie et la convoitise. Nous devrions apprendre à faire également la part des choses entre ce qui est de nos besoins réels et ce qui est de nos désirs. La société veut nous faire croire que nous avons besoin de cela. Ce n'est pas toujours la réalité. Alors que Dieu nous accorde la sagesse dont nous avons besoin et de rester sourds aux sirènes de la consommation. C'est difficile. En tant que chrétien en Suisse, très difficile. Mais ce n'est pas impossible. Mais que Dieu nous aide et nous garde. Et nous accorde ce discernement. Ai-je réellement besoin de cela ? Est-ce que je ne peux vraiment ne pas vivre sans cet objet ? Et enfin, plutôt que d'envier la possession et les biens des autres, et cela peut arriver si souvent, et peut nous arriver ou nous arrive si souvent, eh bien apprenons au contraire à nous réjouir. Plutôt que de voir ce que l'autre a et que je n'ai pas, mais que Dieu m'aide au contraire à me réjouir de ce qu'il a donné à mon prochain. Ou est-ce que je vais aller faire un procès à Dieu parce qu'il a donné ça à lui et pas à moi ? Il lui donne ce qu'il veut, quand il veut. À ce pot de terre, comme moi, il fait ce qu'il veut. S'il veut mettre du vin plutôt que du vinaigre dans le pot de terre, bien tant mieux, ou plutôt que de l'eau. C'est Dieu qui choisit. Paul se réjouit dans ses épîtres de toutes les grâces que Dieu accorde à ses églises. Que Dieu nous accorde de nous réjouir du bien de l'autre, plutôt que de le regarder avec un mauvais œil comme Saül à l'égard de David. Je conclus mon message. Mes amis, la foi chrétienne, à contrario de la vie du monde, qui convoite, qui cherche à recevoir coûte que coûte, à prendre la place de l'autre pour être au-dessus de lui, la foi chrétienne ne peut être qu'une foi de reconnaissance, qu'une foi de contentement, qu'une foi de louange et d'action de grâce. Pourquoi ? Parce que Dieu nous a aimés le premier. Si nous l'aimons aujourd'hui, c'est qu'il s'est donné à nous, qu'il nous a aimés avant que nous le connaissions. Voilà pourquoi notre foi doit être d'abord une foi, et premièrement une foi de reconnaissance, de contentement, de louange et d'action de grâce. L'éthique chrétienne ne peut donc aller que dans un sens de générosité. Et c'est ainsi qu'une vie d'insatisfaction, de convoitise et d'appropriation est à l'inverse de la vraie nature de notre foi. Puisque, en tant que chrétiens, nous avons reçu et continuons de recevoir surabondamment de la part de Dieu, alors plutôt que de convoiter, eh bien nous devrions au contraire généreusement donner en retour. Donner notre amour, donner matériellement, donner notre temps. Et sachant que ce que nous donnons en retour n'est qu'une infime partie de tout ce que nous avons reçu. Mes amis, que notre vie vraiment personnelle, familiale, ecclésiale, soit caractérisée, et elle l'est, par votre libéralité, elle l'est, les membres de l'Église le savent, soit caractérisée par la reconnaissance, par le contentement, par la joie et par la générosité. Amen. Nous avons vu ce matin, Éternel notre Dieu, nous avons considéré rapidement ces paroles de David qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Éternel, notre Dieu, dans un monde si oppressant, si axé sur la consommation, si mécontent, et qui déteint nécessairement sur nous, Éternel, tu connais notre nature pécheresse, apprends-nous, ô Éternel, à sortir vraiment de ce mouvement oppressant, rapide, qui nous entraîne, Éternel, et qui nous conduit à tourner des regards inquiets, Seigneur, et à vivre souvent dans le mécontentement, à envier, à convoiter. Apprends-nous, Éternel, à considérer ta personne, la personne de Jésus-Christ, notre Sauveur, à nous souvenir que celui qui tourne vers lui et vers toi, ses regards est rayonnant de joie, à nous réjouir dans ta personne, dans ta majesté, dans ta gloire, dans tes œuvres, à te dire que nous t'aimons, à nous réjouir, Éternel, de tout ce que tu as fait, de tout ce que tu fais, à nous réjouir de la création que tu nous accordes, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur, avec tant de largesse. Éternel, il y a un mouvement contre lequel nous devons lutter, certains peut-être plus que d'autres, apprends-nous à lutter contre ce mouvement. Seigneur, à ce que nous ne continuions pas peut-être à dysfonctionner parfois en enviant, en regardant et en étant comme brûlés intérieurement par la jalousie, la convoitise et l'envie. Si tel a été le cas, pardonne-nous, personnellement, en famille peut-être et en Église. Accorde-nous au contraire, et comme il t'a été demandé, vraiment une réelle joie. Une réelle joie, Seigneur, qui puisse déborder autour de nous. Comme père sur nos épouses et nos enfants, comme mère sur nos époux et nos enfants, sur tout le reste de nos familles, Seigneur, sur notre Église, sur nos collègues de travail, sur cette ville, sur cette région, sur ce canton, sur ce pays et sur ce monde. Seigneur, telle est notre prière en nous attendant véritablement à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.